Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 5 août 2020. En ce qui concerne la séance d'hier, je pourrais vous parler des chiffres de Disney, des chiffres de Nicolas qui ont été affectés par des problèmes de livraison dans la chaîne d'approvisionnement. Rien à voir avec le fait qu'ils ne vendent pas de bagnole. Je pourrais aussi tergiverser sur le fait que la Maison Blanche et les démocrates sont sur le point de tomber d'accord sur un plan de stimulus adéquat, accord qui devrait tomber pour la fin de la semaine. On pourrait même aborder le sujet de Zillow qui était upgradé avant les chiffres trimestriels parce que le marché immobilier américain est soi-disant hyper chaud bouillant de la mort qui tue. Sans oublier que selon certaines autres sources, la chute de l'emploi aux USA fait qu'une quantité astronomique d'Américains vont se faire expulser pour loyer non payé. Mais finalement, le seul truc qui intéressait le marché hier, c'est le fait que l'or est passé au-dessus des 2 000 $ pour la première fois de son histoire et qu'il ne reste plus que 980 $ de hausse et nous serons à 3 000. 3 000 $ qui est donc l'objectif le plus raisonnable qui a été annoncé ces derniers jours. Il faut dire que CNBC n'invite pas les analystes qui n'ont pas d'objectif au moins 50% plus haut. C'est marrant, hein, je dis ça en observant dans ma bibliothèque. Enfin oui, j'ai une bibliothèque. Je peux y observer le livre de Glassman et Assett qui s'intitule Dow Jones 36 000, comment profiter de la hausse des marchés boursiers, publié en l'an 2000, juste avant que ça baisse. Toute ressemblance avec des personnages ayant existé serait purement fortuite. Donc oui, l'or est au plus haut de tous les temps, tout le monde l'avait prévu, tout le monde l'avait dit, tout le monde le savait. C'est assez impressionnant comment cette hausse semble ne surprendre personne et comment les gens sont plutôt déçus de voir que nous sommes que là. La raison de la hausse de l'or est toujours la même, les afflux de liquidités dans le marché, le dollar qui se pète la figure, les taux à zéro et les gens qui ont les jetons que le marché commence à baisser et qui ne soient pas protégés en cas de baisse. Oui, parce que si en plus le marché venait à se crasher en septembre ou en octobre, qui sont, rappelons-le, des mois très propices pour les crashs boursiers, tout cela sans compter que Sleepy Joe est bien parti pour devenir président, autant se protéger en achetant de l'or. De l'or qui, pour certains, deviendra la nouvelle monnaie d'échange du futur, relayant le Bitcoin à une théorie futuriste et les cartes de crédit à de la daube en plastique. Non, l'avenir est à se trimballer des lingots d'or dans les poches arrière avec une râpe à fromage autour du cou pour pouvoir payer dans les magasins. En gros, c'est la ruée vers l'or, version 2020, et si vous êtes vieux comme moi, il est temps de jeter un œil dans vos vieilles affaires, vos vieux cartons, parce que les vrenlis que vous offraient vos grands-parents en 1978 commencent à faire du sens. Mis à part ça, parlons tout de même de Disney. La société de Mickey et Minnie a donc publié ses chiffres trimestriels hier. Il ne fallait pas être devin pour imaginer que le trimestre n'avait pas dû être terrible, puisqu'avec la plupart de leurs parcs fermés, de leurs sorties de cinéma repoussées aux calendes grecques, et le fait qu'ils se retrouvaient avec un stock d'oreilles de Mickey en plastique made in China invendable, les chiffres ne pouvaient donc pas être aussi spectaculaires et magnifiquement extraordinaires comme ceux de Tesla. Pour faire simple, Disney a perdu près de 5 milliards ce trimestre, principalement à cause des parcs. Mais heureusement qu'ils ont Disney+, parce que comme là, ils ont franchi la barre des 100 millions d'abonnés, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les Américains peuvent donc tranquillement continuer à fusionner avec leur canapé, pour autant qu'ils aient encore un appartement pour mettre le canapé dedans. En résumé, les chiffres de Disney étaient pourris, mais comme on le savait, c'était plutôt une bonne surprise, et le titre prenait encore 4% after close, sans compter qu'ils vont sortir Mulan directement sur Disney+, et en pay-per-view pour la modique somme de 30 $. Et oui, l'histoire d'une petite chinoise qui devient une héroïne. Vu les relations entre la Chine et les USA, je pense que Trump sera le premier à payer pour voir le film. Bref, vous l'aurez compris, les investisseurs jouent les fêtes basses, puisque dès que la pandémie sera passée, c'est-à-dire vers 2024, tout le monde va se ruer à nouveau dans les parcs pour payer 45 € le burger frit coca et 87 € la robe de princesse pour la petite dernière, robe qui va finir au fond d'une armoire à côté du sabre de pirate du capitaine Jack Sparrow qui date d'avant la pandémie. Je suis quand même obligé de parler de Nicolas, ils ont donc eu des problèmes de livraison de matériel à cause du virus, pas de bol, ça arrive qu'à eux ce genre de problème. Le marché attendait une perte de 13 cents par action, pas de bol encore, c'est 3 fois plus. Mais bonne nouvelle, alors que rien ne va à cause de la pandémie, Nicolas s'est monté rassurant et très fort en communication, et ses premiers pick-up devraient sortir lors du quatrième trimestre 2021. Et puis, avec leur usine en Allemagne et celle des USA, ils produiront 35 000 véhicules par année. Je suis certain qu'ils vont en vendre une chier en Europe. Historiquement, l'Européen adore les pick-up. On rêve tous d'aller dans un parking avec un énorme pick-up de 6 mètres, un parking qui a été dessiné avec des Clio diesel comme modèle de base. Bref, Nicolas semble vraiment un coup sûr et si les plombages en or existaient encore, je vendrais les miens pour acheter du Nicolas. En plus, c'est pas cher, le titre a perdu 18% after close et 70% depuis les plus hauts. Autrement, on notera aussi les excellents chiffres d'Activision comme ceux de la concurrence. Il semble clair que si tout le monde était en home office durant le confinement, les journées n'ont pas été occupées à faire que des trucs pour le boulot. Ou alors, il a fallu vachement occuper les enfants pour ne pas qu'ils sortent. Au cas où un enfant de 2020 aurait encore envie de sortir, ce qui semble hautement improbable tant que le Wi-Fi ne tombe pas en panne. Et puis, on notera aussi une perte plus importante que prévue chez Beyond Meat. Le titre chutait de 7% et je ne sais pas pourquoi, mais je m'en fous à un point, c'est inouï. Par contre, chiffre canon chez Square qui prenait encore 10% de plus after close. En conclusion de tout cela, le Nasdaq terminait au plus haut de tous les temps pour la première fois depuis hier. Le S&P 500 casse ses résistances et il semble de plus en plus probable que l'indice des 500 plus grosses boîtes américaines rejoigne prochainement l'or et le Nasdaq au panthéon des records boursiers. Ce matin, le Nikkei est légèrement, très légèrement en baisse, le reste légèrement en hausse. Les marchés sont très timorés alors que le Wall Street Journal annonce que les Américains et les Chinois vont se rencontrer pour parler compliance à propos de la phase 1 du trade deal. Sérieusement. Donc les mecs se crachent au visage depuis des semaines, se boycottent mutuellement, se ferment des consulats parmi, mais ils vont se voir pour parler compliance à propos du trade deal qui date de janvier. Les mecs, ils se haïssent, mais ils font comme si de rien n'était. Oui, bonjour, très cher, vous répondrez bien un peu de canard laqué avant que l'on parle des limites infranchissables que l'on veut bien imposer à notre sympathique accord de janvier. Mais que nenni, cher ami, je n'en ferai rien en tant que vous n'aurez pas plongé vos doigts dans ces frites délicieuses et avalé un morceau de ce délicieux burger à la fausse viande made in China de chez Beyond Meat. Ensuite, parlons compliance avec délice. Bref, pour faire simple, ils sont complètement cinglés. Et si on avait encore un doute, l'argent n'a pas d'odeur. Pour ce qui est des nouvelles du jour, c'est franchement maigre et c'est surtout du réchauffé. On parle un peu du Covid, mais honnêtement, ça n'intéresse plus personne, si ce n'est que l'on va bien. On risque bien de finir l'année en se baladant avec un masque partout où on va, même en plein air. Il faudra donc vous attendre à ne plus jamais me croiser en ville, ni dans un magasin, ni dans un restaurant. Ensuite, il y a le pétrole qui remonte à 41,63 et puis tout le monde parle du stimulus à venir et de l'explosion à Beyrouth, des chiffres de Disney et des tensions avec la Chine. Pour le reste, c'est très calme. Trop calme peut-être. Autrement, on aura le PMI des services, surtout en Europe, le trade balance aux USA, ainsi que l'ISM non-manufacturing, le PMI des services aussi, et les inventaires pétroliers. Pour les chiffres trimestriels, il y aura Roku, Etsy, Moderna, Regeneron, Humana, Zynga. C'est pas une chanson africaine ça. Pour les plus connus. Pour le reste, le prochain gros morceau, c'est les chiffres de l'emploi de vendredi. En attendant, on continue à attendre la fin de l'été, la fin des vacances et le retour de l'envie des intervenants et des investisseurs. Dans l'intervalle, je vous souhaite une très belle journée et à demain. Merci à vous d'être toujours présents et de vous être manifestés hier en likant nos articles. Vous êtes toujours plus nombreux et ça, c'est cool. Bon là, vous êtes moins nombreux, mais c'est les vacances, alors on vous en veut pas. Très bonne journée et à demain.